Donc, on avait vu comment Jésus a été vainqueur face au diable qu'il avait tenté au tout début de son ministère. Et il avait donc déjà montré qu'il était le Fils de Dieu, résistant en tout point aux tentations du diable, le diable qui allait revenir à la charge, bien sûr, avant la crucifixion. Et Jésus étant vainqueur, n'est-ce pas, puisqu'il est allé jusqu'au bout. Ça, on le parcourt là. On va continuer à parcourir la suite de l'évangile de Marc. On s'en était arrêté au chapitre 1, verset 15, et on va donc poursuivre à partir du verset 16. L'évangile de Marc 1, à partir du verset 16, et avant ça, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci encore pour nous avoir laissé ta parole, Seigneur. Ô combien, Seigneur, elle est précieuse et fait que vraiment elle est toute sa place dans nos cœurs, Seigneur, et que nous la laissions agir. Voilà, veuille préparer nos cœurs à la recevoir et à la mettre en pratique, Seigneur. Et merci parce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde et, Seigneur, pour vraiment te voir à l'œuvre, Seigneur. Je m'abandonne à toi pour ce message au nom de Jésus. Amen. Je prierai, je lirai. Marc 1, verset 16. J'ai intitulé ce message « En avant ». Verset 16. « Comme il passait le long de la mer de Galilée, donc Jésus, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Quelle journée hein, pour Jésus. Ouais. Comment il a débuté son ministère. Alors, effectivement, on comprend pourquoi l'évangile de Marc, c'est un évangile qui nous met tout de suite dans l'action. Hein. Et ici, ce texte-là nous montre quoi ? Nous montre que les paroles, aussi bien les paroles que les actes de Jésus font autorité. Sont autorité et font autorité. Ils font autorité dans trois domaines, dans ce texte. Déjà, dans son appel des disciples. Autorité dans son appel des disciples, premier point. Deuxièmement, autorité pour chasser les démons et guérir les malades. Et troisièmement, autorité dans la proclamation de l'évangile. Donc voyons, premier point, voyons les paroles et les actes de Jésus font autorité dans son appel des disciples. Donc Jésus s'était fait baptiser, il est sorti vainqueur de la tentation et il démarre son ministère. Il rentre dans l'action. Comment est-ce qu'il démarre son ministère? Donc comment le chapitre, le verset 15 nous dit comment son ministère avait commencé? Eh bien, en prêchant la bonne nouvelle de l'Évangile. Le verset qui précède, juste avant ce texte, verset 15, il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus était rentré dans l'action, en prêchant lui-même l'Évangile. Et prêcher l'Évangile, c'était la mission première de Jésus, sa première mission, avant même qu'il meure sur la croix. C'était prioritaire sur tous les miracles qu'il allait accomplir par la suite. Guérir les malades, chasser les démons, nourrir les foules. Et pour que son ministère se poursuive après son départ, eh bien, une autre priorité était de s'entourer d'une bonne équipe. Et le film The Chosen montre bien, effectivement, comment il a pris ce groupe de disciples pour qu'ils vivent, pour qu'ils le suivent, qu'ils le voient faire. Pour qu'il continue le travail après. On peut voir au moins deux appels depuis qu'on a commencé à parcourir l'évangile de Jésus. Le premier appel, c'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça s'adresse à tous. Puis vient le second appel de Jésus, c'est suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. À qui est-ce qu'il s'adresse ici? Il va constituer son équipe. Ses disciples. Et Jésus va appeler qui? Des hommes ordinaires. Des hommes ordinaires qui seront ses témoins oculaires et auditifs durant tout son ministère. Ils vont le voir faire. Il va les former par son exemple, en les appelant à faire comme lui. Et ensuite, eh bien, il les enverra prêcher à leur tour. Alors, il commence par appeler quoi? Par appeler des pêcheurs. Alors, pêcheurs... Il appelle tous les hommes pêcheurs, mais ici c'est pas le même mot. Ici il appelle des pêcheurs de poissons. Il appelle des pêcheurs, donc pas des notables. Ce sont pas des notables, ce sont pas des gens très instruits. Ce sont même pas des gens religieux qui ont étudié avec les pharisiens, les scribes. Il ne leur demande pas leur CV. Il les appelle et ça doit suffire. Et ça suffit, effectivement. En effet, ceux qui sont appelés ne négocient pas un salaire. Tu sais, je veux bien te suivre, mais à condition que ça soit temps. Ils ne négocient même pas un salaire. Ils ne demandent pas une bonne couverture sociale. Est-ce que la mutuelle, il y a une bonne mutuelle? Ils ne demandent pas 5 semaines de congés payés. Rien de tout ça. Le texte nous dit pour Simon, qui allait devenir Pierre, et pour son frère André, que aussitôt, ils suivirent Jésus. Après avoir laissé leur filet, c'est-à-dire leur sécurité, leur métier de pêcheur. Voir et entendre Jésus leur a suffi. Voir et entendre Jésus les appeler leur a suffi pour le suivre. Même scénario pour Jacques et Jean, son frère, qui ont laissé, eux aussi des pêcheurs de poissons, ils ont laissé l'affaire florissante de leur père Zébédée pour suivre Jésus aussitôt. Action, tout va très vite. Christ appelle des gens, non pas en fonction de leur capacité, de leur degré d'instruction, même si c'est bien de faire des études. Christ appelle des gens, pas en fonction de leur qualification, mais en fonction de ce qu'il va faire d'eux. C'est lui qui les qualifie, c'est lui qui nous qualifie, chacun. Regardez ce que Jésus a dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » C'est lui qui fait le travail, c'est lui qui les transforme, qui nous transforme. Il y a une condition, la seule condition, c'est que nous soyons prêts à lui dire « Oui, Seigneur, je vais t'obéir. » Comme ce fut le cas pour Simon et André, et Jacques et Jean. Le prénom Simon, c'est intéressant de regarder la signification des prénoms dans la Bible, le prénom Simon veut dire « qui écoute, qui entend ». Ils ont montré d'emblée leur promptitude à obéir, de façon spontanée, immédiate, sans discuter. Ils avaient laissé un commerce lucratif déjà derrière eux. Ils avaient montré qu'ils étaient déjà des disciples, et non seulement des disciples, mais ils allaient devenir les apôtres de Jésus. Ceux-là, en tout cas. Et on peut s'interroger, pourquoi est-ce que Jésus a-t-il choisi des pêcheurs de poissons pour commencer son ministère, pour s'entourer d'une équipe? Pourquoi des pêcheurs de poissons? Eh bien, réponse, il le dit lui-même, pour en faire des pêcheurs d'hommes. Alors effectivement, c'est intéressant pour nous parce que pêcher des hommes, ce que Jésus veut, c'est-à-dire il veut des âmes pour lui, eh bien ça va demander les mêmes qualités qu'un pêcheur de poissons. Si on réfléchit au métier de pêcheur, alors je suis pas pêcheur moi-même, peut-être il y en a qui l'ont été, peut-être ceux qui habitent ou qui ont habité près de la mer. En tout cas, c'est un métier qui demande de la persévérance. Il ne faut pas se décourager si on revient bredouille. Ça demande de la patience. On ne voit rien venir. Bon, ça ne fait rien, on recommence un autre jour. Ça demande de ne pas se décourager quand on revient bredouille. Ça demande aussi de l'expérience. Où est-ce qu'on peut prêcher là, qu'on peut pêcher là en priorité? De réfléchir. Ça demande aussi de l'adresse pour ne pas laisser partir le poisson qu'on a amorcé. Bref, ça demande de la préparation, le métier de pêcheur. Et aussi, ça demande de la préparation pour évangéliser. Et parfois, eh bien, ça demande aussi d'oser revoir sa stratégie. Parce que les pêcheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils réparent leur filet quand il est troué, pour éviter que les poissons ne passent au travers. Eh bien, parfois, nous aussi, il nous est demandé de ne pas faire un copier-coller. Ah, ça a marché là-bas, on va faire la même chose ici. C'est important d'être toujours à l'écoute du Seigneur. Et puis aussi, pour ramener les filets, eh bien, il faut de la force. Et un seul homme ne peut pas tout faire. Et c'est pareil dans le travail du Seigneur, n'est-ce pas? Travailler en équipe, lorsque des âmes viennent à Christ, eh bien d'être plusieurs à les suivre, pour ne pas que ça soit trop lourd pour la même personne. Travailler en équipe. Et puis, la pêche, ça se pratique par temps calme. Une mer calme. Pour ne pas effrayer le poisson, pour qu'il accroche. Eh bien, l'évangile se prêche dans la paix et non pas dans les disputes, n'est-ce pas? C'est dans la paix qu'on sera le mieux, le plus efficace. Action! Jésus part avec ses disciples à Capernaum. Et c'est là qu'il avait installé son quartier général. C'est très intéressant dans le film The Chosen parce qu'ils ont vraiment reconstitué la ville de Capernaum qui a donné le mot Capernaum. Voilà, beaucoup de vie, beaucoup d'agitation, beaucoup de parfois de désordre. Mais en tout cas, il y avait de la vie dans ce village. C'est là donc qu'il va installer son quartier général, Jésus. Et la première chose qu'il fait, donc le jour du sabbat, c'est d'entrer dans la synagogue pour y enseigner. Mon deuxième point, eh bien, c'est là qu'on va voir que les paroles et les actes de Jésus font autorité, sont autorité et font autorité pour chasser les démons et guérir les malades. Jésus suscite un grand étonnement chez ses auditeurs, qui remarquent qu'il enseigne avec autorité, différemment de ce qu'ils ont déjà entendu. Jésus ne transmet pas juste un savoir. Aujourd'hui, on est dans une société de l'information, on se nourrit de plein de choses qui passent sur Internet. Mais là, la parole de Dieu, c'est pas juste de transmettre un savoir. Sa parole, elle agit. Elle agit dans le cœur. Elle est vivante. Jésus prêche avec autorité parce qu'il vit ce qu'il prêche. Il ne se contredit pas. Ce qui n'était pas le cas des scribes. Les scribes qui étaient pourtant versés dans les Écritures, ils connaissaient les Écritures pour la recopier et la recopier. Comme quoi on peut connaître beaucoup de choses sur Dieu. Mais connaître Dieu personnellement, c'est autre chose. Et Jésus, lui, le connaît personnellement. Et pour cause, il est son fils. Le fils de Dieu est donc le mieux placé pour nous en parler. Alors la question, peut-être tu te dis, moi aussi j'aimerais connaître Dieu personnellement. Eh bien, bonne nouvelle, tu peux, c'est pour ça que Jésus est venu. Est-ce que nous pouvons nous aussi connaître Dieu personnellement? Oui. Dieu veut qu'on le connaisse, et pas à moitié. Et connaître son Fils, c'est le connaître lui. Dans l'évangile de Jean, chapitre qu'on le connaisse comme Sauveur et Seigneur. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 17, verset 3, pardon. Jésus a dit dans sa prière, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ça la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Donc, ce n'est pas à la portée de quelques-uns. Il veut que ça soit à la portée de nous tous qui croyons en lui. Un autre événement va confirmer l'autorité de la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Un homme est possédé d'un esprit impur, un démon. Où ça ? Dans la synagogue. Dans la synagogue même. Comment ça ? Comment se fait-il que le diable ait pu trouver sa place dans un lieu de culte réservé à l'adoration de l'Éternel ? Le temple, des siècles auparavant, la gloire de Dieu avait rempli le temple. Comment se fait-il que le diable a trouvé sa place dans la synagogue ? D'ailleurs, le démon lui-même pose la question à Jésus. Qu'y a-t-il entre Jésus et lui ? Les deux mondes sont séparés. Jésus n'a rien à voir avec les démons. Et la présence de l'homme possédé dans la synagogue montre qu'Israël n'était pas en bonne santé. Et quand est-ce que... Alors pourquoi ? On peut se demander pourquoi Israël n'était pas en bonne santé. Eh bien, c'est souvent le cas lorsque la parole de Dieu n'est plus au centre du culte. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est possible dans une église, ce qui s'est passé là dans la synagogue ? On peut se poser cette question légitimement. Est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? La présence même de Jésus, avant même qu'il ait dit sa parole, la présence même de Jésus a suffi à effrayer le démon. Christ est présent dans son église, il est présent là au milieu de nous, et ça devrait suffire. Les deux, Jésus et le diable, ne peuvent pas cohabiter. C'est pas possible. Un chrétien qui a accepté Jésus ne peut pas être en même temps possédé du démon. C'est pas possible. Il faut pas confondre la possession avec le péché. Le péché, oui, on a encore à lutter avec notre péché. Toutefois, attention quand même. Attention à ce que le Christ, Jésus, ne soit pas laissé dehors de son église. La parole de Dieu nous met en garde, comme elle a mis en garde l'église de Laodicée, où le Christ était à la porte de son église. Sa parole n'était plus au centre. Et attention, parce qu'en faisant cela, eh bien c'est en fermant la porte à Jésus, c'est ouvrir la porte aux démons. Alors, c'est pas étonnant si le ministère de Jésus commence par une lutte contre Satan. Vous avez remarqué l'évangile de Jean, combien de fois Jésus a été tenté lui-même par le diable, et puis là, ça continue, le combat contre le diable et ses démons. Ces démons qui s'opposent à lui. Alors oui, il faut être conscient que, pour nous en tout cas, nous sommes dans un combat spirituel. Quand on veut servir le Seigneur, ça ne plaît pas aux forces des ténèbres, ça ne plaît pas au diable ni à ses démons. Et Éphésiens 6:12 nous le dit bien, pour ne pas se tromper d'ennemis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est notre combat à nous. Ça a été le combat de Jésus, à plus forte raison. C'est notre combat à nous. Et nous devons en être conscients. Et vous avez remarqué, notre société moderne prend ce monde spirituel à la légère. Notre société moderne nie l'existence des démons et ne voit pas leurs actions, pourtant flagrantes. On en a eu des exemples avec le nazisme, les atrocités qui se sont passées. Et il y en a encore des atrocités qui se passent au XXIe siècle. Aujourd'hui, beaucoup n'y croient pas au diable et à ses démons. Ou pire, ils croient sans croire en Dieu. Ils croient au diable, ils croient aux démons, mais ils ne veulent pas croire en Dieu. Et cette semaine à la télé, il y a quelque chose, en regardant, vous savez, on regarde parfois les programmes, ça va essayer de repérer un programme intéressant. Je crois que c'était jeudi. En parcourant le programme télé, la même journée, j'ai vu trois titres d'émissions qui faisaient mention du diable. Trois titres dans la même journée. « si certains ne croient pas en Dieu ni au diable. Eh bien, pourtant, les démons croient en Dieu. Il n'y a pas d'athée chez les démons. Ils croient en Dieu. Les démons eux-mêmes croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent, nous dit Jacques, chapitre 2, verset 19. Ils croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent parce qu'ils rejettent la vérité. Ici, dans ce cas présent, le démon reconnaissait la divinité de Jésus. Le démon reconnaissait que Jésus était sans péché. Et pour cause, il va le confesser. Là, c'est pas l'homme qui confesse Jésus, là. Quand, dans ce qui est dit, « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » C'est pas l'homme qui confesse Jésus, c'est le démon qui le possède. Alors que c'est l'homme et le démon qui disent, qui demandent ensemble à Jésus, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Là, le démon s'associe à l'homme. Or, c'est le démon qui parle, « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » C'est le démon qui confesse Jésus. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Effectivement, il n'y a rien de commun entre Jésus et le démon qui possède l'homme. Ce sont deux mondes séparés. Et le démon le reconnaît et Jésus le confirme. Vous avez remarqué, le démon confesse Jésus. Jésus refuse son témoignage. Il le confesse. Mais Jésus refuse son témoignage. Pourquoi il refuse son témoignage? Bien sûr, pour ne pas lui être associé. Aux yeux de tous, on est dans la synagogue. Les autres observent ce qui se passe. Et que dit Jésus? Une parole aux yeux de tous. Tais-toi et sors de cet homme. Verset 25. Jésus ne veut pas être associé à ce démon, même s'il le confesse. Tais-toi et sors de cet homme. Une simple parole, pas un long discours. Une simple parole suffit à faire sortir le démon de l'homme avec des cris et des convulsions. Avec un cri et des convulsions. On est dans la synagogue, aux yeux de tous. Tous se présentent dans la synagogue. Alors effectivement, ça a suscité un grand étonnement, verset 27. Est-ce là une nouvelle doctrine? C'est plutôt court et simple pour une nouvelle doctrine. Il n'y a pas un livre là qui a été écrit. Une simple parole. Mais l'important n'est pas tant la phrase que celui qui l'a prononcée. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, qui est la parole de Dieu incarnée, qui fait autorité parce qu'elle est puissante. La journée est loin d'être terminée. Action est loin d'être terminée pour Jésus. Jésus part avec Jacques et Jean chez Simon et André. Simon était marié, hein. Et c'est intéressant, encore le film The Chosen nous permet d'imaginer quelle était sa vie de disciple, d'avoir suivi Jésus et sa femme dans tout ça. Et le film montre bien, il n'y a pas beaucoup de détails, hein, mais Simon était marié parce qu'il a une belle-mère, voilà, c'est pour ça. Hein. En tout cas, voilà, le film montre bien comment sa femme, la femme de Simon, elle avait de l'importance, elle n'était pas mise de côté, simplement Simon devait mettre Jésus en premier, avant sa femme. Et donc, voilà la belle-mère. Simon était marié et il avait accueilli sa belle-mère. Alors, on ne sait pas si elle était veuve, si... En tout cas, elle était malade. Et le texte nous dit, on informe Jésus aussitôt, nous dit le texte, que la belle-mère de Simon est malade. Si Jésus est capable de chasser les démons, il doit bien être capable de guérir les malades. Et parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais est-ce qu'il n'y a pas une... Parfois, il y avait une époque, en tout cas, où on avait tendance à mettre sur le dos des démons les maladies. Ah, vous savez, il a le démon de telle maladie, de telle... voilà. Est-ce que là, les gens pensaient comme dans certains milieux qu'une maladie est forcément liée à des démons? Ce qui serait très culpabilisant. Eh bien, Jésus va montrer que non. C'est pas pour rien, effectivement, hein, si les deux épisodes sont mis l'un à la suite de l'autre. La libération du possédé dans un sens, juste avant, et là, la guérison de la belle-mère. Et Jésus va procéder différemment avec la belle-mère. C'est frappant de voir comment il procède. Jésus va procéder différemment d'avec le démoniaque. Le démoniaque, Jésus ne l'avait pas touché. Une simple parole a suffi à faire sortir le démon. Mais avec la femme, il va s'y prendre différemment. Il va, on voit toute sa compassion avec la femme. Il va s'approcher d'elle. Et là, il ne parle pas. Il l'a fait lever, nous dit le texte, en lui prenant la main. Simplement la main. Un geste qui n'a pas eu avec le démoniaque. Un geste qui prend en compte la personne tout entière. Et pas simplement son âme. Jésus prend en compte, prend soin du corps tout entier. Et là, c'est intéressant aussi parce que le mot traduit par « prendre la main », ça évoque l'idée de s'attacher fermement, de tenir puissamment, sous contrôle. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est attaché cette femme. Voilà comment Jésus a répondu aux prières. Aux prières pour cette femme. Les gens qui étaient là ont prié Jésus de venir guérir cette femme. Jésus y a répondu. Résultat, elle a été instantanément guérie. Alors, il y a une application pour nous. Des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, on ne sait pas trop quoi dire. Il y a quelqu'un qui est malade et vous aimeriez trouver la bonne parole. Vous savez pas trop quoi dire. Mais devant une personne qui souffre, ne nous sentons pas obligés de parler si on ne sait pas quoi dire. Ici, dans ce cas-là, il n'est pas dit que Jésus a parlé, étant lui-même la parole. Pour chasser le démon, il a parlé. Une parole a suffi. Mais qu'a fait Jésus? Il a pris la main de cette femme. Ne sous-estimons pas l'importance d'être simplement présent au chevet d'une personne qui souffre, voire qui est peut-être mourante. Et ne sous-estimons pas l'importance du toucher. Prendre là simplement la main de quelqu'un. Surtout en le faisant au nom de Jésus. Autre application pour nous, eh bien, n'attendons pas pour amener à Jésus les personnes qui souffrent, que ce soit dans notre famille, dans notre entourage, les malades. Le verset 30 précise « Aussitôt on parla de cette femme à Jésus ». N'attendons pas pour amener nos proches dans la prière à Jésus. Jésus est toujours prêt à être accueilli dans nos maisons, même si tout le monde n'y croit pas, ne croit pas en lui. Il est toujours prêt à être accueilli dans nos maisons pour y agir. Action. Après sa guérison, la belle-mère de Pierre, un petit détail, elle se met à servir Jésus et ses disciples. Alors là, effectivement, on est le jour du sabbat et ça devait être le repas juste après le sabbat. Ils sont sortis de la synagogue, hein. Tout à l'heure, on va sortir de l'église pour un bon repas, peut-être en famille pour certains d'entre vous. Et là, la belle-mère de Simon, elle a été guérie et elle a retrouvé des forces. Elle ne va pas rester sans rien faire. Elle va servir. Elle va servir le Seigneur et ses disciples. Et certainement qu'elle a dû préparer le repas. Oui, parce que lorsqu'on est guéri d'une maladie et qu'on sait qu'on a prié pour nous, on n'a pas envie de garder pour soi ce que Jésus a fait. Pour nous, personnellement. Le mot guérir veut dire aussi servir. Mettre au service du Seigneur la force qu'il nous donne ou qu'il nous a redonnée, eh bien, ça c'est une façon de lui dire merci, une façon de montrer notre reconnaissance. Quand on est béni, frères et sœurs, et je crois qu'on peut tous témoigner, en tout cas, des bénédictions du Seigneur, quand on est béni, c'est pour être en bénédiction aux autres. C'est pas pour la garder pour nous. Une bénédiction dans la nature, une bénédiction, ça se partage. Et la joie qui va avec, elle se multiplie quand on la partage. Jésus, il est le plus grand serviteur. L'évangile de Marc, c'est l'évangile du serviteur. Jésus est venu pour servir, pour nous servir, pour qu'à notre tour, nous servions. On est servi pour servir à notre tour. Alors, c'est le début du ministère de Simon, Pierre, qui allait devenir Pierre. Et certainement que cette scène, il a dû s'en souvenir après Pierre, dans son ministère, pour lui-même passer à l'action. Certainement, Jésus était en train de le former. Alors, vous vous rappelez, Jésus, enfin le texte en tout cas, dit que Jésus ne permettait pas aux démons qui avaient été chassés de parler. Pourtant ici, Quand Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, là, il n'a pas empêché, il les a pas empêchés d'aller dire aux autres ce qui s'est passé. Il y avait juste un démoniaque et une malade qui avait été guérie. Et qu'est-ce que tous ceux qui étaient présents, ils sont allés propager la nouvelle. Dans tout à Capernaum, la guérison du démoniaque et de la belle-mère ont dû faire sensation. Et qu'est-ce qui s'est passé? La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et bien très vite, les gens lui amenèrent leurs malades et les possédaient. La journée n'était pas terminée pour Jésus. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Alors non, la journée n'était pas terminée pour lui. Alors est-ce qu'il va faire? Il va aller se coucher? Non. Jésus continue inlassablement à guérir les malades qu'on lui amenait et à chasser les démons, même après le coucher du soleil. Alors on peut se demander, mais comment, où Jésus puisait-il sa force? Le texte nous le dit. Mon troisième point, les paroles et les actes de Jésus-Christ font autorité dans la proclamation de l'Évangile. Où Jésus puisait-il sa force? La réponse est dans le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà son secret, si on peut dire. Ce n'est pas un secret, parce que c'est dans la parole. Jésus savait se lever tôt et s'isoler pour prier. Pour prier et pour recevoir les instructions de son Père. Et c'était capital pour un ministère efficace. Et je trouve que son attitude se rapporte, il a agi comme le disciple lui-même, il était aux instructions de son Père, il recevait les instructions de son Père. Ésaïe 50, verset 4 nous donne quelle est l'attitude du disciple. Ésaïe 50, verset 4 nous dit: Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Et c'est ce que Jésus a fait. Chaque matin, il se levait pour écouter son Père. Et si Jésus avait cette habitude de prier chaque matin pour recevoir de son Père la force et la direction pour la journée, si lui le faisait, si lui en avait le besoin, à plus forte raison, frères et sœurs, on en a besoin. On en a besoin. Pour éviter de nous épuiser et pour discerner les priorités du Seigneur, parce que des besoins, il y en a partout. Il y en a partout. Et peut-être vous êtes plein de bonne volonté pour partager votre foi, pour faire de bonnes œuvres. Mais ce texte nous dit que ce n'est pas le besoin qui doit dicter nos actions. C'est pas le besoin qui doit dicter nos actions. Des besoins, il y en a partout. Et la suite du texte nous instruit là-dessus. Jésus est en train de prier très tôt et Simon et ses amis, eh bien, ils sont allés à sa recherche. Simon et ses amis n'ont vu que le besoin. Pourquoi? Parce que la foule le cherchait. Lui qui avait guéri des malades et chassé des démons la veille au soir, il fallait que ça continue. Ils l'ont cherché. Et Simon et ses amis, ils ont mis la pression à Jésus en lui disant « Tous te cherchent. Quel besoin il y a là? Tous te cherchent. » Mais c'est dans la prière que Jésus a entendu la volonté du Seigneur, de son Père. Il a entendu la volonté de son Père de ne pas retourner à Capernaum. Il y a encore plus de besoins ici? Allons ailleurs. Il y a encore plus de besoins ici? Allons ailleurs. Il était vraiment au pied de son Père. Il recevait ses instructions. Réponse étonnante de Jésus. Jésus ne se laissait pas accaparer par sa popularité. Il connaissait le cœur de l'homme. Et attention lorsqu'on dit trop d'éloges de vous, de nous. Jésus ne voulait pas la couronne avant la croix. Sa priorité était d'annoncer l'évangile avant toute autre chose. Et c'est parce qu'il est allé à la croix et qu'il est ressuscité que nous tous, nous pouvons être guéris d'une maladie qui nous a tous atteintes, celle du péché. La tendance innée à désobéir à Dieu. Comment ? Eh bien, en croyant en lui, en nous repentant de nos péchés, on peut être guéri de cette maladie du péché. Et ça, eh bien, cet appel de croire en lui et de nous repentir, il s'adresse à tous, tous les hommes, toutes les femmes, les enfants, les vieillards, tous. Et il adresse un autre appel, et cette fois un appel à ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur, à ceux qui ont cru, c'est-à-dire nous, l'Église. Et cet appel, c'est « Suivez-moi pour être mes disciples ». Ce n'est pas réservé à une élite d'être les disciples de Jésus. Être disciple, ça veut dire un engagement, essayer d'être fidèle à ses engagements. N'est pas apôtre qui veut. Les apôtres, ce sont ceux qui ont côtoyé Jésus en chair. Mais être disciple, c'est un appel qui s'adresse à tous, à toutes les, tout à chacun de l'Église. Alors oui, par la parole de Dieu qui fait autorité que nous pouvons nous approprier, que nous pouvons proclamer, nous pouvons aussi chasser des démons. Au nom puissant de Jésus, plutôt que par de longs discours persuasifs. Mais attention, pour cela, il nous faut vivre aussi, par la grâce de Dieu, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Il nous faut vivre, il nous faut non seulement vivre, mais croire ce que nous proclamons, ce que nous disons. Et il nous faut non seulement croire ce que nous proclamons, mais il nous faut le vivre. Et là, effectivement, Jésus, lui, il a fait pour nous, il a parfaitement vécu ce qu'il proclamait. Même si nous ne sommes pas parfaits, mais que nous voulons effectivement le suivre, eh bien, il fera de nous des pécheurs d'hommes. Je termine avec cette parole du psaume 116, verset 10. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Je vais prier. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu as appelé des gens ordinaires, Seigneur, pour manifester toute ta gloire, Seigneur. Tu as appelé tes apôtres, des disciples qui n'étaient, aux yeux des hommes en tout cas, pas des gens très compétents. Seigneur, mais toi, tu les as appelés parce que c'est toi qui les as formés, Seigneur. Et ton travail a été efficace, Seigneur, puisque si nous sommes là aujourd'hui, c'est que, voilà, ils ont poursuivi ton travail comme d'autres l'ont poursuivi. Et Seigneur, je prie que nous tous ici, eh bien voilà, nous poursuivions, Seigneur, cet appel à te suivre. Et déjà, Seigneur, oui, que d'accepter la réconciliation, voilà, que tu donnes à chacun en ton Fils Jésus. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, eh bien, il peut le faire. Il peut le faire ici, il peut le faire ce soir. Il peut le faire. Et Seigneur, je prie que tu lui parles et qu'il entende ta voix, Seigneur. Ta douce voix, Seigneur, lui parler. Et pour nous qui t'avons accepté, Seigneur, nous te prions de faire de nous des disciples, Seigneur. Au pied du Maître, à recevoir tes instructions, Seigneur. Et à te suivre en te faisant confiance, pas en comptant sur nous, Seigneur, ou sur nos capacités, mais à te suivre, Seigneur. Merci pour l'exemple des disciples qui n'ont pas discuté, Seigneur. Ils t'ont simplement vu, entendu et ils t'ont suivi. Donne-nous un cœur, Seigneur, de disciples. Et voilà, fais ton œuvre, Seigneur, en nous, et de nous laisser transformer par toi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.